France Inter.
TikTok, I'm on a private jet right now, about to put in my official offer for this platform. I might become your guys' new CEO. I'm super excited. I wish I could say more about the offer I'm putting in, but I can't for now. Just know it's going to be crazy.
Ça va être crazy, dingue, le puissant influenceur Mr Beast, Monsieur Bet, s'adresse sur son compte TikTok à TikTok. Je viendrai peut-être bientôt vous voir en tant que PDG, là je suis dans un jet privé, sur le point de déposer une offre de rachat. Je ne peux pas vous en dire plus, je suis super excitée. Mr Beast n'est pas le seul à être super excited au sujet de ce réseau social. L'an dernier, le Congrès américain a décidé que pour les activités américaines de TikTok, dont le propriétaire est chinois, c'était soit l'interdiction, soit le changement de propriétaire. Alors les prétendants sont sortis du bois, Microsoft, Oracle, le patron de l'OM, Frank McCourt, la start-up d'intelligence artificielle Perplexity et Jeff Bezos, le patron d'Amazon, en dernière minute. Pour le deal, le délai courait jusqu'à ce matin, 6 heures. Tic-tac, tic-toc. Mais Donald Trump vient de le prolonger de nouveau jusqu'au 19 juin. Bon, il faut dire qu'on ne sait toujours pas ce que Pékin pense. Et puis TikTok en 2020, certes, Donald Trump voulait l'interdire, mais aujourd'hui, il a un faible pour cette application qui l'aurait aidé, dit-il, à convaincre les jeunes. Alors si la question de l'influence sur l'opinion publique n'en est pas une, quid de celle de la fuite des données ? Réponse du président des États-Unis. Nous avons des problèmes plus graves que de voir la Chine récupérer des infos sur de jeunes enfants. Ok. Et en France, je scrolle le paysage. À l'Élysée, le chef de l'État fait régulièrement des TikTok. Santé mentale, Aya Nakamura, danger de l'IA. Au Parlement, la commission d'enquête sur les effets psychologiques sur les mineurs vient de commencer ses auditions. Et puis enfin, cette semaine, la fonctionnalité TikTok Shop est arrivée. Le consommateur français peut acheter directement ce que recommande l'influenceur sans sortir du réseau social. TikTok, comme dit Donald Trump, c'est aussi beaucoup d'argent, a lot of money.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue, c'est par ici qu'on discute l'économie comme on la vit et nous avons les micros ouverts jusqu'à 10h. L'équipe est en place, Valentin Pérez, Étienne Bertin, Guillaume Giraud, Emma Bouvier, Anne-Laure Cochet nous signe les mix et Guillaume Roux est à la technique. L'invité de ce samedi 5 avril, c'est le patron de SNCF Voyageurs. Les menaces de grève pendant les ponts de mai, l'arrivée de la concurrence, le prix des billets, interview de Christophe Fanichet, ce sera vers 9h40. On s'intéressera aussi au transport aérien et aux dizaines de petits aéroports dans l'Hexagone. Il y a de l'argent public en jeu. Avons-nous trop d'aéroports ? Vous entendrez le reportage de Léa Gage. Et Madame Vieux-Boulot est avec nous pour éclairer les coulisses du monde du travail. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Il y a toujours plus de courriers, Sandrine, pour vous dans la boîte aux lettres d'On n'arrête pas l'écho. Et ce matin, on a choisi une question récurrente sur les pourboires.
Oui, une question d'Anne qui va souvent au théâtre. Peut-on être entièrement payé au pourboire ? C'est ce que lui dit son ouvreuse. Est-ce vrai ? Demande notre auditrice.
Et la réponse de Sandrine Foulon, Anne, ça sera juste avant 10h. Mais tout d'abord, l'actualité avec... À mes côtés, Béatrice Mathieu, grand reporter au magazine L'Express. Salut Béatrice.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Et Anne-Laure Delatte, directrice de recherche au CNRS. Hello Anne-Laure.
Bonjour Alexandra, bonjour à tout le monde.
Depuis ce matin, une grande partie des produits que les États-Unis importent du reste du monde sont visés par des droits de douane additionnels de 10%. Et tout ça n'est qu'une première étape. Alors Donald Trump qui joue au chamboule tout avec l'ordre économique mondial, avec le commerce, est-ce qu'il est possible de ne pas être trop inquiet, c'est le débat.
Donald Trump a donc mis sa doctrine en pratique en taxant tous les produits importés par les États-Unis de 10 à 50% selon leur pays d'origine.
20% pour les produits venus de l'Union européenne, 34% pour la Chine, 46% pour le Vietnam.
Donald Trump, président des États-Unis.
C'est l'un des jours les plus importants de l'histoire américaine. C'est notre déclaration d'indépendance économique. Grâce aux mesures prises aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir rendre sa grandeur à l'Amérique qui sera plus grande que jamais.
Au fond, le constat américain est un bon constat. La réponse est mauvaise.
Emmanuel Macron.
Il y a trop de désindustrialisation en Occident. La réponse, c'est pas de mettre des tarifs et de casser le commerce international. C'est d'être plus productif. Et donc, nous devons travailler dans le même temps, au niveau français-européen, à accélérer Nos programmes d'investissement, de réindustrialisation, nos simplifications. Cette réponse, elle est essentielle dans la période, il faut l'accélérer.
Notre fragilité économique actuelle est la conséquence de décennies de vos politiques libérales.
Manon Aubry, députée européenne, La France Insoumise.
Celles-là même qui ont promu une mondialisation et une spécialisation économique poussée à l'extrême. Cette soi-disant liberté du libre-échange, c'est celle qui nous rend désormais captifs du chantage commercial de Donald Trump.
Donald Trump torpille la mondialisation, les bourses asiatiques dévissent, le dollar et le pétrole chutent et les secousses atteignent déjà les places financières européennes à l'ouverture.
L'économie mondiale va souffrir massivement, l'incertitude va monter en flèche, les conséquences seront désastreuses.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
Nous sommes prêts à réagir. Nous sommes déjà en train de finaliser un premier paquet de contre-mesures en réponse aux droits de douane pour l'acier. Et nous nous préparons maintenant à d'autres contre-mesures pour protéger nos intérêts et nos entreprises si les négociations échouent.
Je conseillerais aux pays de ne pas paniquer.
Scott Bessent, secrétaire du Trésor américain.
Et de ne pas essayer de répliquer. Tant qu'il n'y a pas de riposte, il n'y aura pas d'escalade.
Voilà les conseils du secrétaire d'État au Trésor américain. Béatrice Mathieu, je vais d'abord me tourner vers vous. Bon, il y a une petite ambiance un peu apocalyptique là. Est-ce qu'on peut regarder ensemble et avec Anne-Laure Delatte la taille du choc? Si on fait la photo comme tout le monde l'a faite hier soir de l'impact sur les bourses, ça a l'air désastreux.
Ça a l'air cataclysmique. Alors moi je dirais la situation elle est grave, mais elle n'est pas désespérée. Alors c'est vrai que sur les bourses on se dit voilà, c'est jeudi noir, vendredi noir. C'est vrai que la chute elle est impressionnante. C'est la chute la plus impressionnante depuis en fait les baisses qu'on avait enregistrées au début de la pandémie. Il faut voir quand même, quand on regarde l'évolution de tous les marchés boursiers, que ce soit le CAC, le Nasdaq, le DAX allemand, etc., depuis 5-6 ans, ils ont énormément progressé. Donc, il faut aussi tempérer cette chute. Il n'empêche que, sur le marché du Nasdaq, qui est celui, le marché américain des grandes valeurs technologiques, il y a eu 1000 milliards de capitalisation boursière qui est partie en fumée, un peu plus de 300 milliards sur Apple, un peu plus par exemple de 200 milliards sur Nvidia qui est un des fabricants de puces. Donc ces chiffres-là, on dit, voilà, c'est la fin.
Que ça traduit, c'est que les investisseurs se disent que ces secteurs-là vont être très touchés.
Ça traduit aussi beaucoup d'inquiétude parce qu'on ne sait pas jusqu'où effectivement et jusqu'où ça peut aller, effectivement l'ampleur des ripostes ou pas. Moi, là où je dis c'est pas désespéré, c'est quand on regarde juste un petit coin de la photographie, dans le commerce mondial, en fait, l'Amérique représente 13% des importations mondiales. Ça veut dire qu'il y a quand même 87% des importations mondiales, en fait, qui ne sont pas surtaxées. Donc, ça permet aussi de relativiser aussi l'impact sur la croissance mondiale.
Anne-Laure Delatte, est-ce que vous avez envie de relativiser ce choc également?
Mais oui, en fait, keep calm. je suis plutôt rassurée depuis la présentation du CEPI hier, qui est un grand centre de recherche publique qui a été fondé par Raymond Barre il y a 45 ans, qui a été dirigé par notamment Jean Pisani-Ferry, donc c'est des gens plutôt sérieux. Et qu'est-ce qu'ils nous disent hier? Ils nous disent, bon, c'est un gros choc au niveau commerce, on n'a pas vu ça depuis l'entre-deux-guerres. On va passer de droits de douane, c'est-à-dire de taxes sur les importations, de 5% à 27%, donc ça multiplie par 5, c'est en ça que c'est exceptionnel. En revanche, l'effet agrégé, c'est-à-dire l'effet sur le PIB mondial, il est de moins 0,6 pourcentage de points de PIB. C'est quoi? Et en plus, c'est en 2040, hein, c'est un effet permanent, mais de long terme. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est 5 fois plus petit que la crise financière américaine. C'est
au moins 2008.
En 2008. C'est au moins 5 fois plus petit que le Covid. Pour la France, c'est moins 0,3 de croissance en 2040. Pour l'Allemagne, par contre, c'est vraiment plus important. C'est moins 1. Alors, moins 1%, c'est important parce que les Allemands, tout simplement, ils exportent beaucoup d'automobiles et l'automobile est extrêmement taxée.
Mais là, vous nous parlez de 2040, donc vous êtes déjà dans le long terme. Est-ce qu'à court terme, quand même, le choc n'est pas énorme?
Alors,
est-ce que le CEPI nous renseigne là-dessus?
En fait, non, mais quand je dis que c'est à long terme, ça veut dire justement qu'on essaye de prendre tous les effets, c'est des effets justement de retour, de second degré, etc. Alors, c'est important pour la bourse parce qu'il y a une surréaction. Mais le commerce, c'est pas la fine. En fait, quand je vous dis que ça n'est pas comparable à la crise américaine de 2008, c'est parce que quand vous avez une crise financière ou quand vous avez un Covid, vous avez une économie qui se paralyse complètement. Il peut avoir des effets systémiques, c'est-à-dire que je bloque un secteur et tout le reste des secteurs sont bloqués. Là, c'est pas le cas. En fait, ça va impacter de façon très sérieuse des secteurs industriels, manufacturiers, et c'est ça qu'il faut qu'on discute, mais ça ne va pas bloquer tout le reste de l'économie. Donc c'est pour ça, en fait, que les effets ne sont pas si importants.
Okay, oui, puis ça, ces estimations ont été faites sur le fait que les droits de douane américains resteraient à ce niveau-là, ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'on voit bien qu'on est entré dans une période de négociation. Moi, je pense que on dit souvent, dont Trump est erratique, c'est extrêmement difficile de le suivre, etc. Je pense qu'il y a un plan. Il y a un plan qui a été d'ailleurs assez bien détaillé par son conseiller économique Steven Miran, qui est donc, et aussi Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui est un plan en deux étapes. Première étape, déclencher cette guerre commerciale massive où on est, tous les États sont dans un état de stupéfaction par rapport à la violence de l'attaque, pour forcer en fait ces États à venir en fait à la table des négociations. Et qu'est-ce que veut l'Amérique, et ça a été répété depuis des mois, même avant l'élection de Trump, c'est une baisse massive du dollar. Et donc, on va faire venir l'Europe, la Chine, les États-Unis autour de la table de négociation. On dit, bon, ben vous avez eu la Chine, vous avez eu 34% de droits de douane supplémentaires. Bon, ben on va ramener à 20 ou peut-être 15, mais il faut que le dollar baisse. Et ça s'est fait dans le passé. Il y a une date, septembre 85, dans un grand hôtel, l'hôtel du Plaza à New York, où on appelle ça les accords du Plaza, où c'était Reagan à l'époque. Reagan a mis le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et le Japon autour de la table en disant « Moi, je veux une baisse du dollar. » Et suivant les accords du Plaza, c'est ce qui a d'ailleurs alimenté la croissance américaine dans les années 80, le dollar a énormément chuté. Et c'est ce que veut aujourd'hui Trump. Et
aujourd'hui, Trump, il veut les accords de Mar-a-Lago. Qu'en pensent les économistes? Ils disent quoi, Nord de Latte?
En fait, il y a une vraie question en économie qui est un petit casse-tête, c'est que on sait depuis les années 2000 que le commerce international, il y a un gain positif au niveau agrégé, mais il est très mal réparti. Et en fait, vous avez des gens qui ont souffert de ce commerce international, en particulier les ouvriers peu qualifiés dans les secteurs industriels de manufacturiers. Et donc, le raisonnement de Trump qui est assez logique, c'est de dire si certains ont perdu avec la mondialisation, si on démondialise, alors ceux-ci vont gagner. Et ça paraît logique, c'est un raisonnement symétrique.
Et c'est pas seulement celui de Trump. En France aussi, on peut avoir ce genre de questions.
Ben oui, et en plus, en fait, c'est logique, et si ça n'est pas le cas, c'est profondément injuste. Donc il faut essayer de comprendre si c'est le cas ou pas. Le problème, c'est que, d'abord, bon, relocaliser, ça prend du temps. C'est coûteux, il faut retrouver, évidemment, un endroit, des partenaires, etc. Ça, c'est à court terme. Mais ensuite, entre-temps, les biens intermédiaires, c'est-à-dire, vous voyez, dans une voiture, vous allez avoir comment on appelle ça,
des boulons, des plaques de tôle,
voilà,
des essieux, c'est ce que vous voulez.
Tout ce qui sert à la fabrication d'une voiture américaine, bah, notamment, ça vient de Chine, d'Allemagne, etc. Comme il y a des droits de douane que ces produits sont taxés là, ça va augmenter le coût de production américain. Ensuite, vous avez des Européens qui vont probablement riposter. Donc ça veut dire que s'ils ripostent, les biens américains exportés, ils vont aussi devenir plus chers. Ensuite, vous avez des ouvriers américains qui sont de toute façon mieux payés que les ouvriers asiatiques en général. Donc la question, c'est est-ce que 30-40% de droits de douane, ça compense vraiment les écarts de salaire entre l'ouvrier américain et l'ouvrier asiatique? Et enfin, dernière chose, finalement, depuis 20 ans, il y a eu une désindustrialisation partout, mais ça a été aussi beaucoup compensé. En fait, il y a une baisse d'emploi qui a été compensée par beaucoup d'innovations, de machines, de robots.
Et de pouvoir d'achat.
Et de pouvoir d'achat.
En fait, la mondialisation, il y a le sujet du pouvoir d'achat.
Oui, mais là, vous revenez sur le consommateur, Alexandra, alors que moi, j'essaye de voir qu'est-ce que ça peut faire pour l'ouvrier peu qualifié qui a perdu son job. Bien, en fait, tout ce que je viens de vous dire là, le problème, c'est qu'il ne va pas le récupérer parce que l'ouvrier peu qualifié américain et finalement l'européen, tous les prix vont augmenter. Donc finalement, personne ne va être plus compétitif. Et entre-temps, je vous dis, il y a des robots, il y a des machines qui sont venues. Et donc là, s'imaginer qu'on va remplacer les machines et les robots par des ouvriers peu qualifiés, c'est complètement irréaliste.
Est-ce que c'est la fin de la mondialisation, Béatrice Mathieu ?
Non, moi je pense que ce n'est pas la fin de la mondialisation. C'est, d'ailleurs, on voit, pour plusieurs raisons, on voit que la réaction de l'Europe, effectivement, par rapport à Trump, ils vont faire des augmentations de droits de douane ciblés, etc. Mais en même temps, où était Ursula von der Leyen jeudi et vendredi ? Eh bien, elle était à Samarcande, en Ouzbékistan, parce qu'il y avait un grand sommet, en fait, le premier grand sommet entre l'UE et les pays d'Asie centrale, où ils ont parlé essentiellement d'économie et de commerce. Pourquoi aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'on parle énormément du Mercosur ? Ben parce qu'on trouve que finalement, cet accord de commerce entre l'UE et les pays du Mercosur, ben c'est pas mal pour trouver de nouveaux débouchés. À la Commission européenne, on sait qu'ils sont en train de sortir en fait, des placards tous les accords de libre-échange qui avaient été mis en sommeil depuis quelques années. Ils espèrent beaucoup en signer avec l'Inde d'ici la fin de l'année. Ça avance beaucoup aussi avec la Thaïlande et avec l'Indonésie. Et on voit bien que le week-end dernier, là, c'était à Séoul, il y avait les ministres du commerce sud-coréens, japonais et chinois qui relançaient en fait, dans l'urgence un grand projet de zone de libre-échange entre ces trois pays. Donc, ce que l'on voit, c'est plutôt un isolement des États-Unis dans cette mondialisation, mais ce n'est pas la fin de la mondialisation, même si on va, dont tous les industriels se disent, bah, il faut raccourcir en fait, les chaînes de valeur, etc. Mais ce n'est pas le retour à l'autarcie, pas du tout.
En tout cas, Trump souhaite la fin de la mondialisation, clairement, quand il passe de 5 à 27% de droits de douane, enfin 27%, c'est énorme. Vous vous rendez compte, la mondialisation, c'était juste le libre-échange. On ne payait plus, justement, ces taxes-là. 27%, c'est comme si vous passiez d'une TVA de 5 à 30%. Quoi.
Oui, mais alors, du coup, donc, vous nous avez dit, il veut démondialiser, il veut corriger les effets pervers. Ce faisant, il joue au chamboule tout. Est-ce que, et c'est ma dernière question, est-ce qu'on va réussir à l'encaisser ? Béatrice dit, il va y avoir des réponses, des rétorsions. Est-ce que les Français doivent s'inquiéter pour eux ?
Donc je suis tout à fait d'accord avec Béatrice sur le fait qu'il va avoir une riposte européenne et en tout cas on va essayer, j'espère, de s'organiser au niveau multilatéral, c'est-à-dire pas lâcher ces valeurs-là. Le multilatéralisme, c'est une valeur qui est partagée par tous, sauf par les États-Unis et les États réactionnaires, finalement. Donc là, c'est le moment de revenir sur ses bases, de se dire, voilà, en fait, on a des valeurs, le multilatéralisme, l'état de droit, et en fait, la défense de l'écologie, et il faut profiter de ça pour réaffirmer son modèle. Est-ce que les Français doivent avoir peur ? Ouais, par contre, les prix vont augmenter, ça, c'est sûr.
Ok, on se quitte là-dessus. Anne-Laure Delatte et Béatrice Mathieu, elles ont fait le débat d'On n'arrête pas l'écho ce samedi 5 avril.
Real decreto ley para la ampliación de derechos
industrializaron
el unemployment and lower job
creation.
L'économie comme elle continue de tourner ailleurs, c'est l'écho en VO. Nous partons au Royaume-Uni. Good morning.
Good morning and welcome to the Lords Committee on the Environment and Climate Change. Today we will take the opportunity to ask the newly appointed CEO of the Climate Change Committee, Emma Pinchbeck.
Mercredi matin à la Chambre des Lords, Emma Pinchbeck est auditionnée depuis le début de l'année. Mrs. Pinchbeck, elle a pris la tête du Climate Change Committee. Le CCC, c'est l'agence publique qui conseille le gouvernement et le Parlement sur le changement climatique. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes correspondante de France Inter de l'autre côté de la Manche. Alors le Royaume-Uni vise la neutralité carbone en 2050. Comment y arriver ? Lors de cette audition, Emma Pinchbeck, elle a fait une proposition à la fois simple et forte, au point que le Daily Mail la surnomme désormais la tsarine du zéro émission.
Eh oui, sa proposition, plus vous prenez l'avion, plus vous devez payer de taxes. Son raisonnement, c'est qu'il faut réduire les trajets en avion pour parvenir à la neutralité carbone. Mais Emma Pinchbeck le sait, les Britanniques ne renonceront pas à leurs vacances au soleil. Et c'est vrai que la cure estivale de vitamine D, elle est nécessaire pour passer les hivers britanniques. Elle note aussi que plus une famille britannique est aisée, plus elle prend l'avion. Donc, pour la directrice du CCC, il faut laisser la possibilité à tout le monde de faire un aller-retour par an pour que tout le monde puisse aller au moins une fois au soleil. Et donc, il faut inciter les gros voyageurs, c'est-à-dire les plus riches, à renoncer à un ou deux trajets par an en imposant une taxe progressive qui augmenterait à chaque vol supplémentaire. Alors, il y aurait bien d'autres solutions, limiter l'expansion des aéroports, mais ces derniers mois, le gouvernement a validé l'agrandissement de deux d'entre eux à Londres, développer des kérosènes plus propres, mais les technologies n'existent pas encore, ou alors encourager le tourisme domestique. C'est vrai que le Royaume-Uni ne manque pas de belles régions à visiter, comme l'Écosse ou les Cornouailles, mais entre le train, les logements, la restauration, eh bien, ces staycations, elles restent inaccessibles à une bonne partie de la population, contrairement aux destinations plus abordables comme l'Espagne ou le Portugal.
Emmeline Vin avec nous de Londres. (Rire) 9h34 sur France Inter, premier jour des vacances scolaires pour la zone B, les Marseillais, les Strasbourgeois, les Rennais. Dans moins de 10 minutes, le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, sera notre invité. Est-ce que vous allez partir ? Est-ce que vous allez partir en train, en voiture, en avion ? Justement, en France, on compte environ 80 aéroports. La très grande partie, ce sont des petites structures, des aéroports régionaux ou que l'on dit de proximité. Les élus locaux les défendent bec et ongle. Regardez ce qui se passe à Tarbes et à Pau. Deux aéroports situés à 34 minutes l'un de l'autre. Il y a quelques jours, le Premier ministre et maire de Pau incitait encore ses administrés à prendre l'avion et à utiliser la ligne Pau-Orly en concurrence avec la liaison Tarbes-Orly. On peut se poser une question, hein. Est-ce qu'il y a trop d'aéroports en France ? Eh bien, ce matin, nous sommes à Aurillac, chef-lieu du Cantal, le département le plus enclavé de l'Hexagone. Notre reporter Léa Gedge tend le micro dont n'arrête pas l'écho aux passagers qui embarquent vers Paris. On va dire que le billet aller-retour, c'est entre 150 et 250 euros.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le vol Chalair 1505 à destination de Paris-Roulis est prêt pour l'embarquement.
Sylvie, j'ai 65 ans. Pourquoi vous prenez l'avion aujourd'hui ?
Parce que ma famille habite ici et que j'habite Paris.
Vous faites souvent ce trajet ?
Une fois tous les deux mois.
C'est important pour vous qu'il y ait une ligne aérienne ?
C'est très important pour moi. Oui, Aurillac, c'est quand même perdu, hein. Le train, de toute façon, il faut changer ou à Brive ou à Clermont. Et on y passe 7 heures dans le train. Là, moi, j'ai une heure et quart maximum d'avion.
Nous vous rappelons que l'usage du téléphone portable fumé et vapoté sont strictement interdits sur la piste.
Jean-Vincent. Moi, je travaille dans le laboratoire agroalimentaire. On est 120 salariés sur le site. Si on n'avait pas d'aéroport, ça serait beaucoup plus compliqué économiquement, y compris pour aller vers des clients ou que des fournisseurs à nous viennent à nous ici sur Aurillac. En partant à 7h du matin, à 9h30, 10h, on est centre de Paris. On repart le soir, 20h, on part d'Orly et 21h30, on est chez nous. Donc, la concurrence est difficile avec le train.
Merci.
Bonne journée.
Je prends l'avion pour le travail.
Votre prénom ?
Anne-Sandrine. Moi, je travaille à l'assurance maladie. J'ai une formation sur la journée à Paris. Donc, je fais l'aller-retour dans la journée en avion. Et sans l'avion, c'est pas possible. Parce qu'il faut partir la veille, etc. Moi, je suis seule avec ma fille. J'ai personne pour la garder. Voilà. Donc, en termes d'organisation personnelle, c'est la seule solution. Voilà. Donc là, on gagne du temps. C'est trop long le train.
Donc c'est vital pour nous ici. Moi c'est 15 à 20 trajets aller-retour par an.
Des coins comme ici, on n'a pas le choix.
Vincent Descoeurs, je suis député de la circonscription d'Aurillac. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui au cours de la vie de cette ligne ont eu l'occasion de nous dire que sans cette ligne, ces entreprises auraient été condamnées à penser nouvelle localisation. Quand vous voulez recevoir un commercial, si vous n'êtes pas en capacité de lui proposer un aller-retour dans la journée, vous n'êtes pas compétitif. Dans le même temps, il peut se rendre chez un concurrent à Milan. Le déplacement peut être un handicap. C'est une ligne qui est indispensable.
Chaque année, l'aéroport d'Aurillac est soutenu à hauteur d'€1,3 million, de l'argent public qui lui permet de se maintenir à flot. Sa ligne, Aurillac-Paris, elle, reçoit plus de 5 millions d'euros par an de subventions, répartis entre l'État et les collectivités locales afin de combler son déficit.
David Perrier, je suis donc le directeur général de l'agglomération d'Aurillac et également directeur de l'aéroport d'Aurillac.
C'est l'une des 12 liaisons aériennes en France, dites d'aménagement du territoire.
Le sujet, c'est le service public, d'où le maintien d'une ligne, ce qu'on appelle ligne OSP, obligation de service public, avec un aller-retour quotidien sur Paris pour permettre notamment aux chefs d'entreprise du Cantal d'avoir une activité économique. On a 50%, 55% de clientèle professionnelle. C'est indispensable au désenclavement du Cantal.
Est-ce qu'il est rentable, cet aéroport ?
Non, il n'est pas rentable. De la même manière que la ligne elle-même est déficitaire, bien entendu. On est sur un taux de remplissage actuellement qui est entre 45 et 50% des avions, pas tout à fait 50%, qui a été en baisse sur la période post-Covid, parce que les habitudes, notamment professionnelles, ont changé avec les visioconférences, etc., qui font que les gens se déplacent moins. Donc on était à 30 000 passagers par an avant Covid, en progression. Et là, l'année dernière, on est tombé à 25-26 000. Et donc là, on va initier une campagne de communication, notamment sur les départements limitrophes, je pense à la Corrèze, au Lot et à l'Aveyron. Et si on récupère ne serait-ce qu'un passager par vol, ben on augmente de quasiment 5% le taux de fréquentation. Donc c'est un objectif sur cette année. Donc cette campagne, elle va commencer avant l'été. Là.
Oui, salut, c'est Aurillac. Alors, je t'appelle pour le Chalair 1551.
Aujourd'hui, à l'image de celui d'Aurillac, les aéroports régionaux aimeraient attirer une nouvelle clientèle, notamment touristique. Clermont-Ferrand, Metz, Toulon, Rennes, partout, la diminution du trafic intérieur français fragilise la santé économique de ces aéroports.
Correction, rappelez, aligné près, piste 33.
Laurent Timsit est le délégué général de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers.
Il y a eu une reprise forte du trafic international post-Covid. En revanche, le trafic domestique, lui, a baissé. Il a baissé significativement puisqu'il a baissé de l'ordre de 25% en métropole, à peu près 20% sur les lignes de région à région, et particulièrement marqué près de 30% sur les liaisons entre Paris et les régions, puisqu'on a aujourd'hui un niveau de trafic qui est le même que celui qu'on avait en 1984. Ce qui est certain, c'est que le recours à la visioconférence a véritablement changé les habitudes. Des compagnies aériennes ont pu constater, par exemple, que les allers-retours journée avaient pu baisser de 60% par rapport à la période pré-Covid. Et alors, ceux qui vivaient essentiellement du trafic intérieur subissent plus cette baisse de trafic. Et puis, ils sont aussi dépendants, souvent, du trafic de compagnies low-cost, type Ryanair essentiellement, ou EasyJet, ou Transavia. Et ces compagnies aériennes, elles vont venir si elles considèrent qu'elles vont pouvoir gagner de l'argent à partir de ces aéroports. Et donc, le deuxième phénomène qui vient compliquer la vie de ces aéroports régionaux de proximité, c'est le niveau des taxes et redevances qui a significativement augmenté ces dernières années. La taxe sur les billets d'avion a été triplée dans le cadre de la loi de finances 2025. La particularité sur les liaisons domestiques, c'est que vous allez la payer deux fois, parce que comme c'est une taxe à l'embarquement en France, si vous faites un Paris-Toulouse, vous la payez au départ de Paris et au retour de Toulouse. Alors que si vous allez, par exemple, à Francfort, vous allez la payer qu'une fois sur le Paris-Francfort. Et ce qui peut effectivement conduire certaines compagnies à privilégier ces liaisons internationales où le poids de la fiscalité sera moins important que sur une liaison intérieure.
Si la hausse des taxes fait grincer le secteur, d'autres observateurs s'interrogent au contraire sur l'intérêt de poursuivre les subventions à ces aéroports régionaux ou de proximité. La Commission européenne elle-même questionne ce modèle. Elle débattra en 2027 sur la possibilité d'octroyer des aides de fonctionnement aux aéroports accueillant moins de 3 millions de passagers par an. J'ai rendez-vous avec l'économiste et consultant Jacques Pavot. Pour cet ancien directeur de l'Institut de l'aviation, il y a tout simplement trop d'aéroports en France.
En tout, on est à 85-86 aéroports. Et sur les 85, il y en a à peu près une quinzaine, des aéroports comme Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, etc., qui ne sont pas déficitaires. Mais les autres le sont. Il y en a 70 qui sont déficitaires. Ce ne sont que des aéroports régionaux qui sont en déficit parce qu'ils ont moins de 1 million de passagers par an et qu'un aéroport ne peut pas être équilibré à moins de 1 million de passagers par an. Ils sont subventionnés par les collectivités locales, ils sont aussi subventionnés par l'État. Les lignes aériennes qui les desservent sont également subventionnées, donc ça coûte très très cher. Pour les 70 aéroports déficitaires en France, on dépense à peu près 140 millions d'euros par an. Et ça, depuis 20 ou 30 ans, ça représente des sommes considérables pour transporter, en fait, très peu de passagers par an. Parfois, c'est 5 ou 6 000. Et beaucoup sont autour de 30 ou 40, 50 000 passagers, mais c'est très peu. Et quand on fait le calcul, pour les petits aéroports, les tout petits, on s'aperçoit que les aides à chaque passager, dans certains cas, dépassent 200, voire même 300 euros. On s'aperçoit qu'avec cet argent-là, on aurait pu construire, réaménager des lignes ferroviaires sur des centaines de kilomètres. Il faudrait pouvoir disposer d'une méthode reconnue par tous les économistes, qui existe d'ailleurs dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, une méthode qui permette de calculer le vrai bilan socio-économique des aéroports et de leurs lignes, et qui permette de décider s'il faut en fermer certains ou en construire d'autres. Et c'est vrai qu'il y a certaines villes qui sont un peu isolées, peut-être le cas d'Aurillac, mais sur les 70 aéroports déficitaires, à mon avis, il y en a au moins la moitié, peut-être même 40, qu'il faudrait fermer.
Y a-t-il trop d'aéroports en France ? C'était le reportage de Léa Gage.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
La mobilité, le développement économique, tout cela à quel prix ? On poursuit la réflexion avec le PDG de SNCF Voyageurs. Bonjour et bienvenue Christophe Fanichet.
Bonjour.
Alors on va commencer par parler, si vous voulez bien, des trains qui pourraient ne pas arriver à l'heure, voire ne pas rouler. Le syndicat Sudrail appelle à la grève les conducteurs le mercredi 7 mai et les contrôleurs les 9, 10 et dimanche 11 mai. Bon voilà, on parle d'un des grands ponts de mai. Est-ce que les voyageurs auront des trains ?
Je comprends que nos clients, nos voyageurs, ils soient préoccupés, je dirais même inquiets de ces appels à la grève. Mais notre priorité, c'est de faire rouler tous nos trains dans les prochaines semaines. Et pour ça, on a le dialogue social dans notre entreprise. Et ce dialogue social, d'abord, ça a été ces derniers jours, on a reçu absolument toutes les organisations syndicales. On a écouté leurs revendications. Et je dirais que le point important, c'est que hier, on a fait des avancées très concrètes sur les revendications.
Alors juste, je les rappelle pour les auditeurs, hein, ils demandent une prime de 100 euros. Et puis, ils ont un grief sur les changements de planning pour les contrôleurs.
Voilà, c'est ce point-là, c'est des avancées très concrètes. C'est sur les congés, c'est sur les repos, c'est sur la commande. Et sur ces sujets-là, on a fait des avancées très concrètes. Et ce dialogue social, moi je suis très confiant et ça va permettre à tous les Français de voyager en sérénité dans les prochaines semaines.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que normalement vous avez éloigné ce danger de grève et que vous êtes confiant, j'ai bien compris, vous êtes confiant sur le fait que les trains devraient rouler, que d'autres syndicats ne vont pas se greffer à ce mouvement.
C'est ce que je vous dis, Alexandra Ben Saïd. Je vous dis qu'aujourd'hui, le dialogue social, ces avancées que nous avons faites, c'est des choses très concrètes et je suis confiant pour que ça permette aux Français d'avoir leur train. Mais on change un peu de contexte. Vous le disiez dans votre reportage à l'instant, on est maintenant en concurrence. Nos concurrents sont présents et je pense qu'on ne peut pas se permettre une grève. On ne peut vraiment pas se permettre une grève. Cette grève, tout simplement, mes clients d'aujourd'hui, ils iraient tout simplement chez mes concurrents. Et puis, on a un petit risque, c'est qu'ils ne reviennent pas. Les investissements.
Vos concurrents, ils sont que sur quelques grandes lignes. On va en parler justement.
Oui, mais c'est important. Il faut qu'ils restent chez nous. Et puis, c'est des investissements qu'on ne pourrait pas faire dans le train ou dans le réseau. J'imagine qu'on y reviendra. Et puis, c'est moins de dividendes pour l'ensemble des cheminots.
Parmi les sujets qui irritent les cheminots, il y a justement cette ouverture à la concurrence. Alors, on peut parler du niveau régional. Fin juin, ça va être une première. Une ligne va sortir du giron de la SNCF. C'est la liaison Marseille-Toulon-Nice qui sera opérée par Transdev. Et puis, pour la grande vitesse, on voit tous les publicités de Trenitalia. Il y a aussi l'espagnol Renfe. D'autres projets à venir en 2028. Il y aura Proxima vers la côte atlantique. Cette concurrence, c'est un bouleversement chez vous ?
Cette concurrence, d'abord, elle est de deux natures. Rappelons-le, vous l'avez dit dans votre propos, il y a la concurrence sur les trains régionaux. Et cette concurrence, elle est faite par les présidentes et présidents de région, c'est d'ouvrir à la concurrence, c'est-à-dire elle décide quel sera l'opérateur de demain. Effectivement, le 30 juin, un de nos concurrents ouvrira sur Marseille-Nice. Et puis, il y a une deuxième concurrence. C'est la concurrence sur les lignes à grande vitesse. Et elle est déjà présente. Nous, on a déjà deux opérateurs qui sont présents. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on est confiant sur cette concurrence parce qu'on veut gagner. Et on ne fait pas que résister. On gagne des parts de marché. Je regarde sur les dernières années, sur les 5 ans, malgré la concurrence, malgré d'autres opérateurs sur la grande vitesse, on a gagné 14% de parts de marché. Et sur la concurrence, celle des trains régionaux, il y a eu 8 appels d'offres qui ont été ouverts. On en a gagné 5. Donc, dans la concurrence, les cheminots, ils sont présents, ils montrent leur savoir-faire et on montre qu'on s'est gagné.
Dans 5 ans, si on se projette sur la grande vitesse, vous pensez que la concurrence, nos voisins européens, ils auront gagné combien de parts de marché ?
Je ne sais pas vous répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est le moins possible, parce que moi, je suis très confiant. Bon. Je suis très, très confiant. Vous le regardez, aujourd'hui, la concurrence, elle se fait à un moment important dans notre pays, c'est que les Français ont un appétit de train. Et donc, la concurrence, il y aura d'autres concurrents, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, mon objectif, c'est d'avoir toujours la même part de marché et surtout de plus en plus de voyageurs à bord de nos trains.
Alors, l'appétit de train, est-ce que vous pouvez nous rappeler cette explosion de la demande et à quoi vous l'attribuez ? Pourquoi les Français maintenant prendraient plus le train ?
Aujourd'hui, le train, d'abord, de quel train parlons-nous ? On va commencer par les trains régionaux. Je sais que ce n'est pas très habituel, mais aujourd'hui, il y a une explosion de demande de
trains. Train.
C'est les trains du quotidien. C'est 9 trains sur 10 que SNCF Voyageurs fait rouler. 9 trains sur 10, c'est des TER ou des Transiliens. Eh bien, en région, c'est 33% de voyageurs supplémentaires sur ces 5 dernières années. Cet appétit, ça s'explique très simplement. D'abord, je salue les présidents de région qui ont une politique tarifaire extrêmement attractive et qui disent « venez prendre le train plutôt que venir en voiture ». Et puis les Français...
Ça veut dire que quand je prends mon billet de train, si je mets 1 euro, la région, elle met combien ?
Si vous mettez 1 euro, la région, elle met 3 euros. Le TER ou le Transilien, ce sont des offres qui sont subventionnées. C'est une politique publique, justement parce que le train, c'est plus écologique et il faut aider à ce que les Français prennent le plus le train possible. Ce n'est pas le cas du TGV. Le TGV, aujourd'hui, le voyageur qui monte dans un TGV, il paye 100% de son billet de train. Et c'est bien ça le sujet qui est devant nous, parce que aujourd'hui, dans le TGV, on fait de l'aménagement du territoire, nous, chez SNCF Voyageurs. C'est-à-dire que les lignes bénéficiaires, le Paris-Marseille, par exemple, aujourd'hui, ils payent des lignes déficitaires. Et c'est dans la concurrence la question que l'on pose, c'est comment on va pouvoir durablement avoir un modèle qui permet aux lignes bénéficiaires de payer les lignes déficitaires au moment où nos concurrents arrivent, et ils arrivent bien sûr que sur les lignes bénéficiaires. Alors que nous, on a un modèle à la française, le TGV qui va partout, dans toutes les villes. Le rappelle souvent, c'est 230 villes qui sont desservies, des petites villes comme des métropoles. C'est bien plus que ce que nous avons.
Vous êtes en train de dire, Christophe Fanichet, vous êtes en train de dire qu'on ouvre à la concurrence, mais on n'a pas prévu que ces concurrents qui s'installent sur les sillons les plus bénéficiaires participent à l'aménagement du territoire. C'est ce que vous, à la SNCF, vous demandez.
Ce que je vous dis, c'est que nous, on est très fiers de faire cet aménagement du territoire, mais on se sent vraiment seul aujourd'hui sur cet aménagement du territoire. Mais aujourd'hui, la question, elle a été posée et clairement par le gouvernement, que ce soit François Durouvray ou maintenant Philippe Tabarot, qui s'est saisi à bras le corps de ce sujet, c'est on doit trouver la réponse à cette équation économique, comment les lignes bénéficiaires payent les lignes déficitaires et comment ce modèle reste vertueux. Parce que moi, je crois à l'aménagement du territoire, mais je vous le disais, on est un peu seul aujourd'hui à le faire.
Alors, du côté du prix, il y a aussi les usagers du train. Est-ce que cette concurrence, quand même... Alors là, on regardait les prix de vos concurrents rouges. C'est moins 40% en appel d'offres par rapport au prix de la SNCF. Est-ce que ça va vous pousser à baisser les prix sur la grande vitesse ?
Peut-être dans un premier point, si on parle du prix, le prix de la grande vitesse en France... on est en dessous de la moyenne des prix de la grande vitesse en Europe. Il faut quand même le dire, parce que quand on est en France, on oublie un peu ce schéma européen. On est moins cher que l'Allemagne, on est moins cher que l'Espagne, par exemple.
Oui, mais là,
et c'est pas moi
Fanichet.
Qui le dis, Alexandre Bessène, c'est l'autorité de la régulation. Et
j'entends, puis le deuxième sujet... Mais là, vos concurrents, ils arrivent et ils disent « Allez, mon Paris-Marseille, je le propose dès 27 euros, alors que vous, j'ai regardé demain matin, le premier prix, c'est 55 euros. »
Eh bien, d'abord, regardons ce qu'il y a dans ce prix du TGV. Arrêtons-nous un instant, qu'est-ce qu'il y a dans ce prix du TGV ? Eh bien, d'abord, il faut payer l'infrastructure, payer le sillon, payer le péage pour rouler sur le ferroviaire. En France, c'est 40% du prix du billet. Et c'est pas moi, SNCF Voyageurs, qui l'ai décidé, c'est les politiques publiques qui l'ont décidé. En Italie, ce prix du péage, c'est deux fois moins cher. Le deuxième sujet, c'est que dans ce prix, il y a quoi? Il y a l'aménagement du territoire. J'en parlais à l'instant. L'aménagement du territoire, ça veut dire que c'est les lignes bénéficiaires qui payent les lignes déficitaires. Eh bien, c'est un peu ça dans le prix. Le Paris-Marseille, il paye les lignes dans lesquelles il y a moins de voyageurs et dans lesquelles le train roule en déficit.
Donc, votre réponse, c'est si on fait payer à la concurrence cet aménagement du territoire, peut-être que la SNCF baissera ses prix, c'est ça que je comprends?
Non, ce que je dis, c'est que c'est un modèle de politique publique, c'est que c'est à l'État de décider le modèle économique de demain avec l'arrivée de la concurrence. Aujourd'hui, je le redis, le TGV que nous avons, c'est le TGV à la française. J'y tiens beaucoup, j'en suis très fier, il va partout.
Mais lorsqu'on vous dit, je reviens à ma question de prix, lorsqu'on vous dit que le train, et c'est ce qu'on entend, le train n'est plus un moyen de transport populaire, ça coûte trop cher aux familles, est-ce que vous l'entendez?
D'abord, il y a deux trains, Alexandra Ben Saïd. 9 trains sur 10 qui circulent en France, c'est des TER ou des transiliens. Et comme je le disais à l'instant, c'est une politique publique qui est très très attractif. Je donne
alors,
un seul exemple.
De la grande... Non mais parce qu'on ne peut pas refaire à chaque fois toute la photo et partir de très loin. Donc est-ce que vous l'entendez? C'est sur la grande vitesse. On vous dit le train n'est plus populaire, c'est trop cher. Est-ce que c'est un sujet pour vous?
Oui.
Il paraît que vous avez dû baisser les prix l'été dernier parce que les prix étaient trop, il y avait... les gens ne demandaient plus, n'allaient plus vers les billets.
Alors, oui, aujourd'hui, les prix des billets, c'est une question des budgets des Français. Et on a des réponses à cette question-là. La réponse, c'est d'abord l'anticipation, vous le savez, plus tôt vous prenez votre billet de train et moins cher il est. Vous avez des offres comme les Ouigo qui sont par exemple des offres low cost qui permettent à moins de 30 euros d'aller à peu près partout en France. Et puis enfin, on a une carte avantage qui permet de plafonner les prix et qui justement est une question à laquelle on voulait répondre des familles, c'est de pouvoir prévoir son budget. Il n'y a aucune compagnie en Europe aujourd'hui qui vous dit, quel que soit le jour, l'heure à laquelle vous prenez votre moyen de transport, vous aurez un prix plafonné.
Une question sur la Renfe, les Espagnols. Vous avez, on a vu, on a entendu dans les journaux de France Inter ce matin que votre concurrent espagnol dit « je stoppe mes projets en France parce qu'on me met des bâtons dans les roues ». Est-ce que c'est ce que vous faites, le « on » C'est visiblement la SNCF. Est-ce que la SNCF met des barrières à la Renfe qui voudrait proposer des TGV dans le Sud-Ouest?
Stop à cette rumeur. On va être super simple, stop à cette rumeur. Nous n'empêchons personne de revenir sur le territoire national. D'ailleurs, la Renfe, elle est présente sur le territoire national, elle fait rouler des trains aujourd'hui, Trenitalia est présent, donc non, on n'empêche personne de venir. Mais en revanche, si je reprends votre question, oui, c'est difficile de conquérir un nouveau marché. Oui, c'est difficile d'arriver dans un nouveau pays. Nous, il nous a fallu 6 ans pour arriver en Espagne aujourd'hui avec le Ouigo. On fait du Madrid-Barcelone, on a mis 6 ans pour maintenant faire l'Andalousie. Et ça me permet d'ouvrir sur l'international, les Français le savent peu, mais aujourd'hui, SNCF Voyageurs, on dessert plus d'une cinquantaine de villes en Europe, c'est 9 pays, un tiers de notre chiffre d'affaires. Et je pense qu'on peut le redire, aujourd'hui, la France, on opère 40% des voyageurs à grande vitesse en Europe.
Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Anne vous pose une question qui revient souvent chez les auditeurs. Elle va au théâtre et il arrive que l'ouvreuse lui dise que les pourboires sont sa seule source de revenus. Est-ce vrai, vous demande Anne, comment se fait-il que cette ouvreuse ne soit pas salariée?
Tout dépend, Anne, de la salle de spectacle. Dans le théâtre subventionné, les établissements publics, il est interdit de rémunérer les ouvreuses ou les serveurs sous forme de pourboire. La convention collective des entreprises artistiques et culturelles est très claire là-dessus. C'est ce que confirme le Syndéac, le syndicat du secteur. Vous n'avez pas à leur donner la pièce. Tous les personnels chargés d'accueillir le public ont des contrats à durée indéterminée, intermittents. Tous les mots ne vont pas forcément ensemble, mais en gros, ce sont des CDI pour ces types d'emplois très spécifiques. Dans les théâtres privés, mais aussi les bars, les restos ou les salons de coiffure, c'est différent. Une personne en contact avec la clientèle peut être entièrement payée en pourboire, mais attention, il faut que le montant corresponde au SMIC ou au minima fixé par la convention collective. À défaut, c'est l'employeur qui doit compenser. Vous n'avez pas à culpabiliser Anne si vous n'avez pas de monnaie sur vous. Je rappelle d'ailleurs que les pourboires ne sont pas obligatoires, ils sont compris dans le service. Ce qu'on donne en plus, ça s'appelle un pourboire volontaire.
Et alors Sandrine, dans les restaurants, maintenant on peut payer de plus en plus avec sa carte bleue le pourboire. Est-ce que ça c'est un progrès pour les serveurs? Est-ce qu'ils touchent plus?
Bon, ça on n'en sait rien, il n'y a pas d'études sur le sujet. On peut supposer que ça fonctionne mieux car les clients ont de moins en moins d'espèces sur eux. Ce qu'on sait en revanche, c'est que depuis 2022, les pourboires sont exonérés de cotisations sociales et fiscales dans la limite d'1,6 000. économique. Ça devait s'arrêter l'an dernier, mais la loi de finances pour 2025 a prolongé la mesure. L'idée est de rendre plus attractif un secteur qui a du mal à recruter. C'est très à la mode. Aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump avaient tous les deux proposé de défiscaliser les tips. C'est bien la seule chose qu'ils avaient en commun. Trump s'apprêterait à le faire. À court terme, ça améliorerait l'ordinaire de millions de salariés. Mais les experts alertent sur les retours de boomerang. La mesure pourrait inciter les employeurs à baisser les salaires fixes et finir d'agacer les Américains qui n'en peuvent plus de devoir payer des pourboires pour tout. L'université de Yale a calculé que cette défiscalisation creuserait un trou de 100 milliards de dollars dans les recettes fédérales. Au moment où l'administration tronçonne les budgets sociaux, ce n'est pas une bonne nouvelle. Les plus démunis et ceux qui sont payés au pourboire sont souvent les mêmes. Ailleurs comme ici, la meilleure façon de redonner du pouvoir d'achat, c'est encore et toujours d'augmenter les salaires.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.